Franck Dixmier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la gestion taux chez Allianz Global Investor. On va parler avec vous, bien sûr, de ce qui s'est passé sur les marchés, les perspectives sur ces marchés. On pourrait dire que dans notre calendrier, hein, ou dans votre calendrier d'investisseurs, Chypre était peut-être en tout petit, ou en tout cas ne faisait pas partie des grands sujets de cette année 2013. Chypre qui est venu s'inviter dans l'actualité des marchés. Sur les marchés de taux, est-ce que ça a eu un impact aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à mesurer cette peur peut-être est venue s'installer? Est-ce que ça a eu un impact sur le marché?
Au début, pas du tout, pas du tout. Et on sent depuis quelques séances, et notamment avec la réouverture des banques Chypre aujourd'hui, qu'il y a un petit peu d'inquiétude. Mais je dirais que l'inquiétude, elle est plus générée par une communication qui a été absolument désastreuse au niveau de l'Eurogroupe, avec Monsieur Dijsselbloem, qui dans son interview au FT et à Reuters, a indiqué que le plan pour Chypre était réplicable. Ça me semble être pas le cas. Donc le démenti est arrivé très vite, hein, de la part de Benoît Cœuré. Donc la Banque Centrale Européenne a été très très claire. Ce n'est pas réplicable. Et Dieu merci, parce qu'on a aujourd'hui une architecture très très crédible de soutien au niveau de la zone euro, avec un rôle clé de la Banque Centrale Européenne avec l'OMT et de l'ESM, hein, pour financer des plans de recapitalisation des banques. Donc dire que c'était réplicable, c'était mettre tout ça par terre. Donc c'est absolument désastreux. Donc la communication était très très mauvaise. Le premier plan communiqué a été exécrable, hein, puisqu'on a brisé un tabou de garantie des dépôts. Donc ça, c'est jamais bon. Bon, maintenant, quand on prend un peu de recul, c'est pas un événement de nature systémique, bien évidemment, pour la zone euro. Il y a des problèmes un petit peu plus graves. Mais enfin, ça prouve que la nécessité d'une union bancaire est réelle. Hein. Donc l'union bancaire, c'est pour mars 2014, dans une première étape, avec la Banque Centrale Européenne qui aura la supervision des établissements de crédit ayant plus de 30 milliards d'actifs, représentant plus de 50% du PIB national. Donc dans une union bancaire, le problème de Chypre ne se serait pas passé comme ça.
Donc là, il y a effectivement cette gestion, hein, de la crise. On a vu beaucoup d'investisseurs, notamment anglo-saxons, hein, voir à nouveau l'Europe sous un mauvais jour, effectivement, en se disant, ça y est, c'est reparti en Europe, incapacité à gérer, sachant que Chypre, effectivement, en tant ce que ça représente sur le plan économique était très faible par rapport au reste de l'Europe, mais dire, si l'Europe n'est pas capable de gérer ce problème de Chypre, l'Europe n'arrivera jamais à régler ses problèmes.
Hein. Oui, eurobashing typique. Donc on va pas cesser d'impressionner par ça. Je pense que les États-Unis, ils ont leurs problèmes, hein, avec le fiscal cliff, avec des négociations qui patinent entre démocrates et républicains, donc qui nettoient un peu chez eux. L'Angleterre n'a aucune leçon à donner, hein, des finances publiques absolument dégradées et une croissance en berne. On parle même de triple dip, hein, potentiel pour l'économie anglaise. Donc c'est pas très sérieux. Non, regardons ce qui nous intéresse vraiment pour les marchés de taux et à moyen et long terme, c'est qu'aujourd'hui, on a réellement une architecture très crédible de soutien. Donc on l'a dit, avec techniquement l'ESM, la Banque Centrale Européenne qui est prête à agir. Au-delà de ça, on est dans un processus d'intégration budgétaire renforcée au niveau de la zone euro. Et pour moi, enfin pour nous chez Allianz Global Investors, il y a vraiment un élément essentiel donc, et qui est passé un peu sous le tapis, à la trappe. L'élément clé depuis ce début d'année, c'est l'adoption du two-pack, hein, donc cet accord entre le Parlement européen et la Commission, de mettre en œuvre une intégration budgétaire renforcée avec, dès le 15 octobre, l'obligation pour tous les États membres de la zone euro de présenter leur projet de budget à la Commission européenne pour avis, pour consultation, avant même de présenter ces budgets aux parlements nationaux. Et dans un deuxième temps, la possibilité de mise sous surveillance des États en difficulté financière s'ils ne respectent pas les plans sur lesquels ils se sont engagés. Donc finalement, les marges de manœuvre budgétaires pour les gouvernants en zone euro aujourd'hui sont extrêmement limitées. Alors, ça pose peut-être des questions de démocratie, mais aujourd'hui, on a une politique monétaire qui est sous l'égide de la BCE, et on a une politique budgétaire qui va être de plus en plus contrainte, dans un cadre très très orthodoxe, très très, enfin qui signifie que les États membres ont des devoirs, des engagements vis-à-vis de la Commission. Et ça, c'est très rassurant pour les créanciers obligataires.
Alors, effectivement, on voit tout de même, hein, sur certains pays, on a pu voir des gens évoquer la Slovénie, on a pu voir aussi certains dire, mais attendez, regardez du côté de l'Irlande. On voit qu'il y a encore, sur certains pays, des problèmes qui pourraient à nouveau éclater.
Bien sûr, hein, on est dans une crise terrible, donc on peut pas, on peut pas espérer des résultats très rapides. Néanmoins, constatons qu'au niveau des économies périphériques et sous programme d'assistance, des progrès majeurs ont été faits. Ces économies restaurent leur compétitivité, donc on voit une décroissance des coûts unitaires du travail, à l'exception de l'Italie, hein, la réforme du travail est très très récente en Italie. Donc c'est très très net au Portugal, c'est très très net en Irlande, c'est très très net en Espagne. On voit des comptes courants qui tendent vers l'équilibre. Pour l'Italie, on a une génération d'excédents primaires et on a un déficit à l'intérieur de la fourchette de 3%. Donc ça marche. Ça commence à marcher, c'est une amélioration qui est très 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 graduelle, qui se fait à un prix très très fort, hein, avec un chômage de masse, des difficultés sociales absolument évidentes, mais la direction est la bonne.
Alors, est-ce que ça vous inquiète quand vous voyez qu'il y a un écart qui se creuse entre les rendements français et allemands, comme on a pu voir, est-ce que c'est lié à ce qui se passe sur les marchés ou effectivement peut-être que la France, on se pose beaucoup de questions sur sa capacité, une fois que les plans de rigueur sont là, on voit ce que ça donne en termes de prévision de croissance, mais à retrouver effectivement certaines croissances, à réduire ses dépenses.
Alors, sur les 6 derniers mois, on a eu quand même un phénomène de compression, hein, du spread entre France et Allemagne. Là, dans les événements les plus récents, dans un surcroît d'aversion au risque, on a un phénomène classique de recherche de qualité, de sécurité, et donc le B2 Safety qui se traduit par des flux massifs d'investissement sur le Bund, qui va retrouver ses plus hauts niveaux. Donc là, rien de vraiment surprenant. Bon, maintenant, sur une perspective de moyen terme, il serait assez logique de voir un écartement des spreads entre France et Allemagne. On a une dichotomie croissante en termes macroéconomiques, hein, en termes de croissance et de croissance potentielle entre la France et l'Allemagne. Et la France n'est pas encore assez crédible dans sa volonté de mettre en place des réformes structurelles. Ça va venir. Il y a des engagements qui ont été pris, il y a déjà des premiers pas qui ont été faits, notamment en termes de compétitivité, mais les marchés attendent un petit peu plus.
En termes de stratégie, qu'est-ce que ça veut dire pour les investisseurs? Vous parliez du Bund, on avait l'impression que sur ces marchés obligataires, alors on a même parlé de crack, hein, à venir, que c'était très compliqué. Quels sont les actifs qu'on peut encore et que vous conseillez encore?
On est dans un phénomène de répression financière, hein, qui va durer et le pilier, c'est évidemment une politique monétaire ultra accommodante. Aujourd'hui, la courbe des taux est totalement plate jusqu'à des échéances 3 ans pratiquement. Et ça implique que les forwards, donc les taux implicites sur la courbe, sont très élevés. Et quand vous regardez le 5 ans en 5 ans sur la courbe allemande, il est au niveau de 2,40. 2,40, c'est pas très loin de la moyenne historique du 5 ans sur les 15 dernières années, autour de 3-3,5%. Donc ça prouve que le potentiel de dégradation en fait de la courbe allemande est faible sur les maturités longues et intermédiaires. Donc c'est un facteur de soutien très très fort. On peut dire que la macroéconomie est venue rattraper aussi les niveaux actuels du Bund, puisqu'on le voit, hein, les prévisions de croissance quand même sont revues à la baisse par tous les organismes, la Banque Centrale Européenne notamment, a revu sa prévision de croissance 2013 à -0,3 hein, pour l'Europe. Donc des fondamentaux très dégradés, croissance très faible, inflation qui décélère. Un phénomène de rareté du Bund. Aujourd'hui, le triple A dans l'univers des taux en Europe, c'est moins de 30%. Donc pour un investisseur qui recherche de la qualité pour couvrir des durations longues, notamment les fonds de pension, il n'y a pas d'alternative au Bund aujourd'hui. Donc des facteurs de soutien très très importants pour le Bund qui ne devraient pas beaucoup corriger et un trade un peu structurel à mettre en place de convergence des pays périphériques vers des niveaux, disons, médians entre les niveaux actuels sur l'Italie et l'Espagne et le niveau actuel du Bund.
Aller chercher des rendements, ça va être vraiment la clé de...
La recherche du rendement, c'est la clé et ne pas faire d'erreur. Parce qu'un événement de crédit sur les niveaux de taux actuels, ça détruit votre performance sur un an et ça ampute votre track record. Donc attention sur le crédit notamment. Le crédit investment grade est cher. Il y a des niches de valeur pour nous encore dans ce marché et notamment sur la dette senior où il faut être extrêmement sélectif. Mais il y a encore de la valeur. Le marché du high yield est cher également, mais recèle encore de la valeur. Donc c'est une sorte de bond picking. Et puis avec en tête un trade un peu plus stratégique de convergence des spreads périphériques.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Franck Dixmier. Je rappelle que vous êtes donc le directeur de la gestion taux chez Allianz Global Investors.
Merci.